On enchaîne avec Cyril, c'est donc Pierre au micro. On va enchaîner avec Cyril pour notre émission 24 Hour Party People, consacrée au post-punk en Angleterre de 79 à 82. C'est précis, n'est-ce pas? On a un angle, comme on dit dans le journalisme, mais on va essayer de divaguer malgré tout et de se payer de franches tranches de rigolade. Donc, on va commencer très vite. Dès que Cyril sera prêt, techniquement, j'attends qu'il me fasse signe, en lançant un premier disque iconique de l'époque post-punk, puisque nous sommes en 1979, quelque part pas loin de Manchester, et un certain groupe s'appelant Joy Division
lance une bombe. La division de la joie.
Division de la joie, nous reviendrons sur la signification quelque peu macabre et sinistre du nom. Lance une bombe avec un titre exceptionnel pour ma part. Ça s'appelle She's Lost Control et on retrouve l'envoûtant Ian Curtis au chant et tous ses compères dont nous reparlerons également l'accompagnent de manière enfiévrée. Donc on lance le premier disque et on en reparle après.
C'est peut-être une manière aussi de finir en beauté le week-end.
Voilà, effectivement, qui n'a pas été avare en perte de contrôle. Donc, c'est tout à fait dans le style décalage contrôlé du 90.8. Cyril fait bien de le remarquer.
Allez, She Lost Control, Joy Division, une sélection de Pierre.
She's
Voilà donc le choix de Pierre pour cette première émission consacrée au post-punk, prénommée 24 Hour Party People.
Exactement. Alors,
pourquoi avoir ouvert justement par Joy Division ?
Bah parce que je pense que c'est un groupe emblématique et quelque part moteur dans la dynamique du post-punk, même si on va voir que ce n'est pas une scène univoque, mais plutôt éclatée, même au sein même de l'Angleterre, entre plusieurs villes, plusieurs scènes.
Et styles donc, musicaux
plusieurs
aussi.
Styles musicaux même. Je pense qu'on va avoir le temps de l'explorer pendant l'heure qui vient à travers nos sélections. Et donc pour revenir sur Joy Division, effectivement, en deux albums, à travers la personnalité notamment de leur leader et aussi le travail du producteur Martin Annett, il y a eu vraiment une patte qui a été imprimée. Et aussi c'était, il faut dire, tout le travail du label Factory Records avec Tony Wilson aux commandes. Ça évoluera plus tard vers des choses aussi intéressantes pour la culture électronique qui renvoie au nom de notre émission. Mais donc, Joy Division, il faut revenir un peu sur leur univers. C'est au départ, le choix de ce nom de groupe vient d'une référence à un roman qui évoque une situation pénible et même très criminelle et grave, puisqu'il s'agit d'un quartier, d'un camp de concentration dédié à la prostitution des femmes juives au service des SS. Donc si vous voulez, cette référence au nazisme est ambivalente chez Joy Division et renvoie aussi à l'utilisation par d'autres groupes de la scène post-punk de références martiales, guerrières, etc. Et donc on ne sait pas exactement à quoi jouent ces mauvais garçons avec cette référence-là, mais ça vient mettre en tout cas de l'huile sur le feu, et il y a une fascination pour le morbide qui va se retrouver aussi dans la personnalité du leader Ian Curtis, dont on connaît malheureusement la fin tragique. Et pour revenir un peu peut-être sur la production du morceau, on reconnaît la patte de Martin Annett avec ce côté très, très léché, très produit, très dépouillé aussi, et avec tous les différents éléments de la musicalité du groupe qui sont bien dissociés et clairement mis en avant, avec une grande efficacité de la basse. Donc voilà, vraiment un morceau à mon sens emblématique et qui, en plus d'être vraiment clair dans ses ambitions, est furieusement dansant et très sinistre dans son ton. Donc je pense que ça lance de façon plutôt appropriée notre émission.
On va dire ça comme ça. Juste pour revenir un petit peu sur les influences du groupe Joy Division, ils ne sont pas tombés de la première dernière pluie, puisqu'ils puissent quand même leurs influences un petit peu dans un univers bien particulier, celui du rock, mais pas que, puisque on peut citer aussi les groupes du krautrock pour le côté, on va dire, abstrait et puis en boucle. La boucle qui était un petit peu par définition la base même du krautrock.
Oui.
On peut aussi dire que le premier nom de scène de Joy Division, c'était Warsaw, qui c'est bien sûr référence à la capitale polonaise.
Et là encore, une évocation de la Seconde Guerre mondiale et des drames du nazisme, puisqu'il y a eu évidemment le ghetto de Varsovie. Et donc par rapport à cette référence au nazisme, je rebondis juste là-dessus, les membres du groupe, quand on leur posait la question en interview, disaient, d'après Simon Reynolds dans son livre phare sur le post-punk, que c'était une façon d'être en empathie et dans la commémoration des victimes. Mais comme je le disais, c'est difficile de cerner vraiment leurs intentions par rapport à cette référence. Il y a indéniablement une volonté de provocation. Et donc, évidemment, les références artistiques aussi sont multiples chez ce groupe, comme tu le disais, Cyril.
Oui, donc post-punk, c'est un mouvement de révolte, de rupture par rapport au rock, on va dire, traditionnel. Puisqu'on va le développer ensemble, il va incorporer différentes musiques, on va dire, périphériques au rock. On parlera aussi du reggae, du funk et plein d'autres choses. Mais avant toute chose, le livre de Simon Reynolds, comme tu le signales bien, c'est « Rip It Up and Start Again ». Ça fait référence justement à cette scène qui s'échelonne, enfin qui s'étale maintenant, comme tu le disais aussi, on en avait parlé à plusieurs reprises. C'est un genre musical qui revient un petit peu à la mode. au travers de différentes formations. Je pense à The Horror, un groupe anglais, pour ceux que ça parle. Sinon, il y a Film Music. Enfin bon, après, c'est une thématique très large. Et puis, condenser ça en une heure, c'est un peu difficile.
Et ça revient même, et là, je prends ma casquette d'ex-membre de l'émission PlayOn, spécialisé dans les musiques électroniques. Et c'est là qu'on se complète, Cyril, et que c'est intéressant de faire cette émission avec toi. Ça revient même dans beaucoup d'esthétiques actuelles de la scène électronique aux Pays-Bas, donc je pense aux Pays-Bas ou ailleurs en Angleterre ou aux États-Unis. Il y a un label dont je t'avais parlé, Cyril, qui s'appelle Dark Entries et qui est spécialisé dans les ressorties de cette époque. Donc si ça vous intéresse, chers auditeurs, profitez donc de l'anniversaire qu'on est en train de célébrer pour aller faire un tour sur Bandcamp et vous faire du bien aux oreilles. Voilà, donc là on a beaucoup parlé, je pense qu'on va pouvoir on va rester à Manchester puisqu'on y est bien, malgré une certaine grisaille, froideur qui est de saison, mais ouais. Voilà, on est en plein dans le climat favorable à l'émergence du post-punk, donc comme ça vous voyez de quoi on parle. Et on va continuer avec un groupe beaucoup plus assez particulier et qui vient malheureusement de connaître certainement
le décès du chanteur Marcus Smith qui nous a quittés au mois de mars ou avril de cette année.
C'était même janvier, mais
janvier peut-être.
Voilà, et en tout cas, c'est sûr que ça met un terme de façon quasi certaine à une démarche qui aura duré plus de 40 ans, mm-hmm. et le temps d'une trentaine d'albums studio et de au moins autant, si ce n'est le double ou le triple d'albums live, donc une carrière hyper prolifique pour un personnage hors norme dont on parlera après avoir entendu le morceau que vous allez écouter maintenant.
Mère, Pseud, Maghead. Alors ça, c'est ton choix.
Voilà, alors j'ai pas pris. Merci d'avoir pris le risque de le prononcer parce que c'était pas le plus simple. Et le nom de l'album, c'est X-Induction Hour. C'est un album marquant et effectivement plutôt porté sur l'expérimentation.
C'est un album qui fait partie de la première période du groupe, la plus pénible. The Fall dans 24 Hour Party People sur Campus Grenoble 90.8. His heart was what it should be. His brain was in his arse. His hand was well out of his pocket. His sight is in the heart. His dream girl sings at the spot.
voilà un morceau qui illustre à point nommé la radicalité du post-rock,
post-punk.
Du post-punk, pardon, lapsus du post-punk façon The Fall. The Fall, je le dis tout de suite, qui fait référence à la chute de Camus, qui était un roman que lisait le bassiste du groupe à l'origine quand le groupe a été formé, donc groupe de Manchester, dont le leader charismatique au chant légèrement alcoolisé, comme vous avez pu l'entendre.
Bah, il chante pas réellement, en fait, il annonce, et c'est vraiment ce qui fait un peu style du groupe, c'est lui qui l'a porté pendant 40 ans. Et The Fall, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est que les premiers albums étaient quasiment sur ce registre un peu expérimental, un petit peu bruitiste, et puis après ça s'est un petit peu édulcoré. Et il faut savoir que c'était quand même une grosse vente en Angleterre, et qu'il a sorti une biographie, il y a quoi, il y a de cela 2-3 ans, et ça raconte d'une façon assez cocasse une de ses tournées aux États-Unis. Et puis en plus d'être imbibé, c'était quelqu'un de profondément, on va dire, on ne peut pas dire qu'il était méchant, mais il avait vraiment une curieuse manière à lui de voir la vie, en fait.
Et toujours un peu prendre le contre-pied du sens commun, des attentes de son interlocuteur, etc., pour le prendre à rebrousse-poil et se moquer du prolo comme de l'intello et du bourgeois. Donc voilà, un personnage un peu inclassable, hors norme, un poète imprégné de littérature, donc une figure à connaître et à explorer pour ceux que ça intéresse. Il y a un peu à boire et à manger dans la discographie de The Fall, et on y reviendra certainement si on est amené à refaire d'autres émissions sur le sujet du post-punk.
Ah bah certainement, mais tu m'as dit qu'il fallait pas vendre la mèche.
Non, non, mais tu l'as dit un peu au départ, donc ça y est, là on commence à se mouiller. Et pour pas trop parler, parce qu'on a déjà beaucoup parlé en début d'émission, je vais te laisser jouer maintenant, Cyril, avec ta sélection.
Mes choix.
Voilà, mais de toute façon, on est là pour partager avec les auditeurs et partager entre nous aussi, c'est-à-dire discuter et aussi expliquer l'intérêt de nos choix dans la présentation d'un mouvement éclectique et très divers.
Éclectique, comme tu le dis, c'est bien le mot, puisque là, on va rester toujours à Manchester, mais changer un petit peu radicalement de décor, puisqu'on va avoir affaire à un groupe multiracial qui était plus porté sur la chose funk, le punk-funk. Les journalistes inventaient des étiquettes un petit peu à dormir debout, puisqu'il fallait bien caractériser, donner des adjectifs pour pouvoir vendre leurs disques. Certaines ratios avec leur tube Shack Up, qui était un petit peu une relecture d'un classique du jazz funk des années 70. Et là, on va écouter 12 doux, pour histoire d'illustrer un peu le propos, et que dire que le post-punk, c'était une scène de rupture par rapport au paysage du rock et du punk.
De rupture, général. D'innovation, de recherche, mais pas seulement, de plaisir aussi. De plaisir pour danser, un peu tout ça en même temps. La quête de la nouveauté, mais dans l'hédonisme aussi, et dans un certain, dans une certaine euphorie, et une énergie indéniable en tout cas.
Toujours sur les ondes de Campus Grenoble 90.8 à bord de 24 Hours Party People, l'émission de Pierre de Cyril qui vous parle de post-punk. Alors Pierre, nous étions justement avec Magazine, un groupe de Manchester qui vraiment flirtait un petit peu plus sur la pop que ce qu'on avait pu proposer en début d'émission. Le groupe de Howard Devoto, un transfuge des Buzzcocks, les Buzzcocks aussi qui peuvent être considérés comme un... D'ailleurs, tu les connais parce que j'ai encore parlé tout seul, là. Les Buzzcocks.
Pas très bien, parce que moi, je viens pas du tout de l'univers pop-rock, je dois le dire aux auditeurs. Et du coup, il y a plein de références que tu maîtrises, Cyril, qui pour moi me sont étrangères. Donc, mais c'est tout l'intérêt de notre échange. Et donc, on va apprendre à se connaître
du côté face aux oreilles des auditeurs. Donc voilà, c'est une espèce d'expérimentation, peut-être post-punk elle aussi. Et,
c'est ouais. Ça.
Donc en tout cas, là, ce qu'on a pu entendre, ça faisait penser à la tendance continentale un petit peu d'un David Bowie, d'un aussi...
Brian Eno,
Roxy Music, tout cet aspect-là, très pop, entêtant, dansant, avec une rythmique bien assise et une voix elle aussi magnétique. Donc un très bon choix, Cyril. Merci. Si tu veux en dire encore quelques mots.
Bah, y a toujours cette phase un petit peu structurée, un petit peu, parce qu'il faut le dire, sur cet album, ils reprennent un classique d'un groupe de funk de la côte ouest, les Sly and Family Stone, avec leur Thank You for In Me, Be Myself Again.
Ah oui, c'est connu ça. Ouais. Ça a même été repris en hip-hop, je crois, mais sans certitude.
Pas mal de recyclage, énormément, et puis l'album était aussi enregistré et puis produit par Martin Annette, l'inénarrable Martin Annette, qui a été un petit peu sur tous les bons coups de la période. Et juste pour finir avec le cas de Magazine, il y avait Barry Adamson, un grand bassiste qui fera une carrière, on va dire, quasiment, on va dire, confidentielle, ou alors connu des aficionados. Et lui, ainsi que John McGosh, qui est l'un des meilleurs guitaristes de sa génération, je pense que John McGosh aussi aura joué avec Susies and Batches. Donc, comme tu le dis, je pense qu'il y aura d'autres émissions de 24 Hour Party People, parce qu'il y a énormément de choses à explorer dans ce registre musical, dans cet univers, parce qu'il y a énormément de facettes. Et comme on l'a dit, c'était vraiment... c'était une coupure entre ce qui s'était passé avant, il y a eu un avant et un après. Et puis le post-punk est toujours vivace dans le rock, tel qu'on l'écoute et on le consomme actuellement. Les Slits, c'est un groupe entièrement féminin, parce que il faut dire que dans ce registre sonore et musical, il y avait quand même une part au militantisme.
Exactement, avec une approche assez particulière de la politique, parce que on peut pas, c'était en fait des gens qui étaient intéressés par la politique, mais alors c'est difficile de généraliser, mais qui étaient intéressés mais à distance, avec un regard critique, avec un regard qui était tout sauf dans l'embrigadement partisan, avec une espèce de volonté de comprendre l'époque à nouveau frais pour se mettre un peu dans le contexte. Il faut rappeler qu'on est à la fin de l'ère du Labour au Royaume-Uni, là où dans les années 70, post-industriel et un peu grise, comme on le disait tout à l'heure, et où celle qui se pointe à l'horizon, c'est la fameuse Maggie, Margaret Thatcher, qui va nous sortir son désormais célèbre « There is no alternative » et entamer privatisation et fermeture d'usines à gogo. Et donc, c'est dans ce contexte que s'élaborent des ruptures politiques et des critiques plutôt radicales. Donc, effectivement... Le militantisme est là, mais de façon, je pense, assez distanciée.
Quoique, il y a quand même des gens qui vont s'engager un petit peu en politique, je pense, pas ouvertement comme je l'entends, mais les Clash vont avoir une certaine forme de militantisme. Il va être, de prime abord, il va être musical, parce que ça va être un chaudron musical qui va ouvrir énormément de perspectives. Et comme tu le disais, c'est un contexte économique, socio-économique bien particulier. Et ça va forcer un petit peu les jeunes de sortir de leur gond. Et puis, il y a une dimension qui n'est pas au maître, le do-it-yourself, qui veut dire littéralement « faites-le vous-même ».
Avec l'essor de labels indépendants.
C'est ça, ça va pousser des jeunes gens à vouloir s'exprimer, puis à cracher leur haine du mouvement, enfin du pouvoir politique en place, puisqu'il aura fait énormément de mal.
Et d'un certain conformisme, c'est là qu'on revient à la posture particulière d'un Mark E. Smith chez The Fall, qui avait toujours un regard un peu sardonique sur le monde qui l'entourait. Et je pense qu'il peut être, à certains égards, assez emblématique du pas de côté qui était opéré par les groupes de cette génération par rapport... à la vie sociale et politique. Il y avait un engagement, mais avec ce regard justement critique sur le monde qui les entourait. et une vraie liberté, une radicalité non seulement musicale, mais dans le discours aussi, dans les paroles. Et donc je pense que c'est ça aussi qui fait que ça nous parle toujours aujourd'hui.
In the beginning, there was the rhythm, un petit peu la base qui va servir à ce microcosme musico-politique, servi par les Slits, un titre qui a été servi en 1980 sur un split single, un single qui donnait d'une face un groupe et de l'autre une autre face. Un autre groupe, voilà. C'était une manière de commercialiser deux groupes pour le prix d'un. Une technique, on va dire, commerciale qui avait été élaborée par les labels. Les Slits, c'est maintenant. Rhythm, life, rhythm, heartbeat, it's beat, I'm body, rhythm, this rhythm is a pattern, but so what you leave your rhythm on, what you beat your music on, it's like a circling, a life button, it's a button, it's a rhythm, whoa, where our toys come from, where the music and the tunes come from, it's beat, it's time, it's time, it's the same, it's rhythm, a silence, silence is a rhythm tour.
Climate, it's rhythm. But then medicine gets made, or the medicine double repeated again and again and again. Becomes chemical, like lead, batteries, hard, machine, toxic rhythm. Civilized bacterium, naturally is rhythm. Oh, nature rhythm was there first. Oh, nature rhythm was there first. In the beginning, there was rhythm. It's gone, it's this, it's earth, it's tongue, it's tongue, it's song, it's glance, it's. Silence is a rhythm too.
Hour Party People, l'émission qui vous parle de post-punk sur Campus Grenoble 90.8 avec l'ami Pierre et puis Cyril de Rockologie, l'émission qui remonte l'histoire du rock tous les mercredis de 21h-22h.
Ah c'est, oui, Rockologie, oui, d'accord. Parce que je croyais que tu, ça y est, je croyais que tu nous avais déjà attribué un créneau dans la grille, je me disais ce garçon va un peu vite. mais alors, nous verrons.
Nous verrons un petit peu par la suite, mais pour l'instant ça fonctionne plutôt pas mal. Wire à l'instant dans cette émission consacrée au post-punk anglais. Wire qui est un des groupes emblématiques de cette rupture, même si sur ce titre qu'on vient de s'écouter, issu de leur troisième album, édité à l'époque chez Harvest Records en 79, lorgné dangereusement sur la pop, ils avaient un petit peu... oublié leur côté expérimental et un petit peu bruitiste du premier album Pink Flag. Alors, la particularité de ce disque, Pierre, c'était justement condenser en un minimum de place sur un disque un maximum de morceaux. C'était vraiment assez révolutionnaire dans l'idée pour l'époque. puisque ils ont en deux trois coups de cuir à peau, ils expédient un riff de guitare, un rythme de batterie, puis un chant un petit peu bâclé comme ça. C'était un petit peu ça aussi, le post-punk.
Ouais, c'était une espèce de d'urgence comme ça qui arrivait, qui était pas forcément préparée, très spontanée. Mais là le procédé était étudié, était voulu, mais il y a pas non plus une infinité de calculs, quoi. On y va avec les tripes et là il y a beaucoup de sensibilité aussi dans le morceau que t'as passé, et j'ai apprécié. Je te laisse poursuivre. Je crois que t'avais encore quelques choix à nous proposer.
On avait procédé aussi par ville, regroupé chaque groupe par ville, puisque là on avait commencé par Manchester avec Joy Division, The Fall, Certain Ratio et puis Magazine. On avait continué avec trois groupes de Londres. On va rester à Londres avec les Cure, on les présente plus, hein, c'est vraiment les fers de lance d'une certaine pomme, une certaine idée de la pop anglaise, avec la coupe de cheveux de Robert Smith. Pierre.
Tout à fait. Oui, c'est remarquable. Et j'ai écouté le morceau que tu as choisi cet après-midi, qui est très connu, effectivement, mais emblématique, intéressant et marquant pour une génération aussi. Donc voilà, c'est aussi ce qu'il faut voir, c'est quelle suite ça donne derrière et quels petits-enfants ou enfants suivent aussi les traces de ces groupes tutélaire.
Et puis là, on est quand même sur un autre univers, une autre étiquette musicale, puisqu'on avait évoqué le post-punk, le funk-punk, toutes ces étiquettes qui avaient été inventées par les journalistes pour vendre du disque. Et là, nous étions sous un angle Cold Wave, hein, qui était aussi un petit peu porté par Joy Division.
C'est en plus un courant que j'apprécie beaucoup, la Cold Wave, la New Wave. Il y a aussi... on passera peut-être un morceau synth-pop de Human League tout à l'heure, si on a le temps, si on arrive jusqu'à Sheffield. Mais en attendant, on s'écoute The Cure, c'est ça ?
The Cure, Primary. We'll be right back.
Et tout de suite, direction Sheffield, vers des contrées sonores davantage proches de la galaxie anciennement Pléione et maintenant Traffic 908 sur Campus Grenoble 90.8 tous les mardis soirs. Je fais aussi la promo de mes petits camarades, il n'y a pas de raison. Et on s'écoute donc The Human League avec Being Boiled, un classique qui est joué dans les clubs électro également aujourd'hui. Donc on y va, c'est parti.
Tu te venges pour l'histoire de la pop, toi, hein ?
Et ouais, chacun son tour, mais c'est toi qui l'as choisi, donc tu vois, on se comprend. C'est parfait.
Okay, ready. Let's do it. Thank you.
Et on a donc conclu l'émission à nouveau dans le champ expérimental du post-punk, puisque là on était vraiment sur un son noisy, abrasif, funky, très mélangé, plein de fusion d'atmosphère, etc. Et c'est la patte très innovante du Cabaret Voltaire, avec le trio d'artistes musiciens Chris Watson à l'orgue, Richard Kirk à la guitare et à la voix, et Steph Malinder sur la section rythmique, basse et batterie. Voilà, donc c'était vraiment juste pour dire un mot du Cabaret Voltaire, qui joue un rôle essentiel dans la scène post-punk de Sheffield, plutôt futuriste, comme c'est une ville très innovante. Et donc là, ils se sont tournés rapidement vers des sonorités assez industrielles, et plus tard, à la dissolution du groupe, et même avant, Richard Kirk va se tourner vers des expérimentations électroniques qui m'intéressent également, autour de la musique industrielle, et va aller voir du côté d'un label essentiel pour le futur de la musique électronique à Sheffield et ailleurs, c'est le label Warp. Donc voilà, et ça va devenir, ça va donner de grandes collaborations. Et juste pour dire, pour les intéresser, qu'il se produit à nouveau maintenant en live sous des nouvelles productions depuis 2014 dans des festivals expérimentaux de musique électronique. Donc vous pouvez continuer à suivre son travail. En tout cas, il est toujours dans une démarche radicale d'innovation et refuse à tout prix de reformer le groupe, estimant que ce serait là une démarche purement mercantile. Donc on reconnaît bien là le rebelle qu'il a toujours été, et ça se remarque à sa vision radicale de la chose politique. On en a un peu parlé dans cette émission, mais ça vaut aussi effectivement pour Cabaret Voltaire. J'ai eu l'occasion de les voir en live à Saint-Etienne il y a 2 ans, et il y avait des projections d'images assez martiales sur l'écran. Donc il est dans cette imagerie violente et d'exaltation d'un certain nihilisme. Donc c'était pour remercier également Cyril de m'avoir accueilli à ce micro, et j'espère que notre collaboration va être amenée à se renouveler. On n'a pas eu le temps de parler du morceau que tu as proposé, du Man League, qui est aussi essentiel dans la culture club actuelle. Donc on voit que le post-punk a des ramifications jusque loin dans notre actualité musicale, mais on aura certainement l'occasion d'en reparler si l'antenne de campus nous offre ce plaisir. En tout cas, merci à vous auditeurs de nous avoir écoutés tout ce week-end des 25 ans de Campus Grenoble. On espère qu'on sera encore au rendez-vous pour 25 prochaines années de bonheur, de fou rire et de partage musical et culturel. Voilà, je tenais à remercier l'ancien et le nouveau, le futur bureau de l'association, mais aussi tous les bénévoles. Voilà, pour dire bien évidemment que je suis ravi de faire partie de cette belle équipe, et que je suis vraiment très très heureux d'être membre de ce collectif, et de continuer à pouvoir y rayonner et connaître chaque jour de grandes joies. Voilà, merci à toi Cyril.
Bah de rien Pierre, c'était un plaisir. Et puis bah quant à moi, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous mercredi ici même sur les ondes de Campus Grenoble 96.8 dans Rockologie, l'émission en montée l'histoire du rock. Et puis bien entendu, restez bien à l'écoute des programmes de Radio Campus ou www.campusgrenoble.org. Merci à tous et à toutes.
On a désormais 25 ans plus 2 jours et 4 minutes.
Ah bah m'en parle pas, j'en ai mal mes paumes.
Voilà, donc là on peut sabrer le champagne, ça y est. Allez, bonne soirée à tous, et restez vaillants, le sourire aux lèvres et les oreilles aux aguets pour plein de bonne musique présente et à venir. Salut.
Salut.